Vous écoutez RTL.
RTL.
J'ai le cœur tendu par toi.
Je croyais que l'instruction et l'éducation servaient à quelque chose. Je m'aperçois qu'on trouve des voyous dans toutes les classes de la société.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le 20 septembre 1946, il y a bientôt 70 ans, disparaissait Rému, l'acteur fétiche de Marcel Pagnol. Le magazine Notre Temps, en partenariat avec RTL, s'est passionné pour son destin magnifique et douloureux. C'est ce que vous allez nous raconter, Florence Monteil. Bonsoir, ravie de vous retrouver.
Bonsoir, bienvenue.
Alors, Rému dans nos mémoires, c'est par exemple César, le propriétaire du bar de la Marine dans Marius, et cette fameuse partie de cartes.
Et continue à faire des grimaces.
Tenez, monsieur Brown, surveillez Scartefig, moi je surveille César.
Comment tu me surveilles, comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci.
Je te fais de la peine.
Non, tu me fais plaisir, tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rire, alors.
Oh, très bien! T'es cœur!
Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, ils nous font le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors ils jouent cœur parbleu. Quelqu'un dévoile tes cartes, hypocrite, tricheur.
Elle est géniale, cette scène, on s'en souvient tous. Marius est le premier volet du célèbre triptyque marseillais de Marcel Pagnol. Cette partie de cartes, cette scène culte, elle a bien failli ne jamais exister à cause d'une histoire de cœur. Et c'est pas un jeu de mots.
Non, alors c'est vraiment incroyable parce qu'elle est tellement culte, cette scène. Pagnol rencontre Rému en 1928. C'est déjà un grand acteur connu, Rému. Et il vient lui proposer donc cette pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre avant d'être un film. Elle se fait, il y aura des anecdotes à raconter. Et donc, à la première, en principe, au troisième acte, il y avait une scène d'amour extrêmement longue.
Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette scène d'amour?
Parce que Fanny était déjà interprétée par Aurane de Mazis, qui était la maîtresse de Pagnol, était fou amoureux d'elle, donc il lui écrivait des scènes hyper longues. Et donc, Pierre Fresnay, donc Marius, avait approché Rému en lui disant, on peut pas faire quelque chose, c'est vraiment trop long. Rému en parle à Pagnol, sauf que Pagnol dit oui, t'as raison, le troisième acte, il est vraiment trop long. On va enlever la partie de cartes. Et Rému, qui avait un sens énorme de la mise en scène, du rythme comique, s'est dit, c'est pas possible, il va nous massacrer la pièce. Donc, en douce, il a impliqué tous les comédiens, il a enlevé la scène d'amour et il a mis
la partie de cartes, le décor aussi.
Qui fait qu'à la première, Pagnol, qui était assis dans le public, il voit le troisième acte, le rideau se lever et c'est pas le bon décor. Au lieu d'avoir sa scène d'amour, il a la partie de cartes, c'est un succès énorme.
Et comment il réagit, Pagnol? Alors, est-ce qu'il est foudrage?
Non, Pagnol, il est scotché. Parce qu'il voit la réaction du public. Ouais. Donc, il va voir après Rému dans sa loge, il prend juste un crayon de maquillage et il écrit sur la tapisserie de la loge de Rému, Monsieur Rému est un génie. Et Rému s'est pas privé pour prendre le petit bout de tapisserie, le faire encadrer et l'agiter sous le nez de Pagnol à chaque fois que j'avais des disputes, ce qui arrivait très souvent.
Pour négocier un plus gros contrat,
voilà,
par exemple.
Pour avoir le dernier mot, ce qui était quelque chose de très important entre les deux hommes.
Est-ce que c'est pour ça que 2 ans plus tard, Marius, la pièce de théâtre, devient un film?
Absolument. Donc ça devient un film, c'est le premier film parlant de Rému. Le cinéma parlant arrive en France et Pagnol, qui a donc 12 ans de moins que Rému, qui est plus moderne, a compris tout de suite l'importance et l'enjeu du cinéma parlant, toute confiance dans le talent de Rému, le pousse à accepter de faire la version cinéma parlant. Et ça va être un énorme succès et les deux autres volets de la trilogie de la même façon.
Florence Monteil, on parle de sacré caractère, la Pagnol et Rému. Rému, donc, qui a disparu il y a 70 ans, c'est pour ça que vous en parlez dans votre article. Quand on parle de ce caractère de Rému, il faut imaginer qu'il était capable de refuser les rôles qu'on lui proposait. C'est ce qui s'est passé, par exemple?
Alors, il était...
Il ne devait pas jouer César, c'est
alors,
ça?
Non, alors, il devait... C'est-à-dire, quand Pagnol... Oui, mais au départ, ce n'était pas le rôle de César que lui propose Pagnol. Donc,
Mais le rôle de Panis.
Et le rôle de Panis, on voit bien, Panis, ce n'est pas un homme très, très glorieux. Et surtout, l'argument de César de Rému pour jouer César. Rappelons quand même que le nom de Rému, hein, c'est Jules Auguste César. Trois empereurs, ça vous pose un homme. Et il avait ce côté, effectivement, gouailleur, et c'est moi qui reçois. Donc, il préférait être le personnage qui reçoit tout le monde dans son bar de la marine que d'être Panis, qui, quand même, n'est pas complètement cocu, mais pas loin, et qui est un personnage moins glorieux, moins puissant. Et donc, il a demandé à Pagnol de lui étoffer le rôle de César et refuser le rôle de Panis.
Il fait rire beaucoup dans le film, Rému, bien sûr, dans Marius, mais il émeut aussi comme cette scène incroyable avec son fils, joué par Pierre Freinet, on l'écoute.
Papa, je t'aime bien, tu sais. Je t'aime bien.
Maman aussi. Pourquoi m'a dit tout ça?
Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, hein, que tu te fais du souci à cause de moi, alors ça me fait penser que je t'aime bien.
Bien sûr.
Bonsoir. Hein.
Bonsoir, mon fils.
Quelle pudeur et quelle beauté cette scène. Alors, papa, je t'aime bien. Et on le voit pas évidemment, on a la radio, mais on l'entend dans la voix de Rému, cette espèce de pudeur amoureuse.
Alors, c'est d'autant plus touchant qu'il y a beaucoup d'histoires derrière cette scène. Au théâtre, c'est lui qui avait pris l'initiative d'embrasser, parce que si on s'en souvient, dans la scène au cinéma, il embrasse son fils sur le front, et ça ajoute énormément, parce que cet homme bourru, au bras velu, comme le décrivait Pagnol dans son scénario, il embrasse ce fils avec une tendresse, c'est très fort, c'est très plein d'humanité, et donc au théâtre, il avait déjà eu, c'est lui qui avait pris l'initiative d'embrasser sur le front son fils sur scène. Et il avait entendu des critiques dire qu'il se gênait pas, et qu'il serait pas un peu homosexuel, etc. Ça l'a tellement vexé qu'il avait arrêté au théâtre de le faire. Et au cinéma, pour le film, il a repris ce geste d'une infinie délicatesse, qui est un grand, grand point d'orgue dans le film.
Comment Rému est-il devenu ce monstre sacré, un parcours douloureux et acharné, vous allez l'entendre. Dans un instant, restez avec nous sur RTL, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Rému était impossible à vivre parce qu'il était d'un orgueil fou. Et un jour, Pagnol lui dit, mais écoute, Jules, tu ne vas pas continuer à te prendre pour les plus grands comédiens du monde quand ce n'est pas Napoléon. Prends-toi un peu pour Rému. Rému le regarde interloqué, il dit, ça, Marcel, j'oserai jamais.
La curiosité est un vilain défaut.
Excellent ! Pas mal. C'est excellent !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Très bonne anecdote sur Rému racontée par l'avocat Maître Lombard, avocat marseillais. On vous raconte l'itinéraire de Rému, très grand acteur évidemment, qui a disparu il y a presque 70 ans. C'était au mois de septembre. Il a laissé des films, des scènes cultes. On en a écouté quelques-unes déjà. Et c'est le magazine Notre Temps qui déroule le fil de sa carrière avec Florence Montet, une habituée du studio de la Curiosité. Rému, c'est une carrure. C'est une gueule, c'est un accent, évidemment. Est-ce que c'est un vrai méridional? Oui, cet accent, il n'est pas factice.
Ah, totalement, c'est un méridional de Toulon. Il disait d'ailleurs, attention, parce qu'il a été rendu célèbre par un rôle marseillais. Il disait, je ne suis pas marseillais, je suis toulonnais. L'accent n'est pas du tout le même.
Rien à voir.
À quelques kilomètres, à Aubagne, c'était pas pareil, Bandol, c'est pas pareil. Voilà, donc il était absolument toulonnais. Il naît dans une famille petit bourgeois. Le papa est artisan tapissier. Et il passe une enfance plutôt facile, agréable. Tout petit, déjà, il est totalement passionné par le théâtre, le spectacle.
Il va même fabriquer un petit théâtre, c'est ça,
c'est une vraie vocation. Alors, à 4 ans, raconte les récits familiaux, à 4 ans, déjà la maternelle, il découpait dans les livres des petits pantins pour faire des spectacles. À 10 ans, il prend des chutes de tissu pour se déguiser dans l'atelier de son père, il fabrique des marionnettes, il fabrique un théâtre, et il va à la sortie de l'arsenal, des chantiers de l'arsenal, et il fait un petit théâtre. On lui jette la piécette, etc. Bon, ça va mal se finir parce que un voisin va le dénoncer, le père va venir l'attraper par la culotte et lui dire tu finiras au bagne, etc.
Et il monte sur scène et assez vite. Hein.
Il va monter sur cette scène vite et malheureusement. Parce qu'il va démarrer en fait comme chanteur, grave erreur, parce que c'était pas un bon chanteur, grand comédien, piètre chanteur. Or, il va s'entêter à vouloir faire du musical.
Mais à quel âge il démarre sur scène?
Il commence, en réalité, à la mort de son père. Il a 15 ans, son père meurt. La famille découvre qu'il avait une double vie, qu'il était endetté, donc sa mère se retrouve sans rien. Il avait un frère aîné de 9 ans qui était parti à l'étranger faire une carrière et disparaît complètement en circulation. Donc c'est un jeune homme de 15 ans qui se retrouve chargé de sa maman. Et là, à la fois, il ne veut pas renoncer à sa vocation, mais il doit faire des petits boulots. Donc il est serveur et il monte sur scène. Il prend des tomates pourries parce qu'il chante très mal. Et il retourne faire il vend du sel. Et ça va durer comme ça presque 20 ans, hein,
alors,
à galérer.
Rému qui naît Jules Auguste César Murer. Comment on arrive à ce surnom Rému? Parce qu'entre-temps, il en a eu d'autres encore.
Mais Sidonie, un peu de Verlon.
Tout à fait, tout simplement.
Donc, Murer.
Et entre-temps, il en a adopté un, Raloum.
Raloum, ouais,
c'est ça. Parce que c'était aussi, c'est la grande époque, en fait, du comique troupier, ce qu'il va faire, les tourlourous, dont était le très célèbre Paulin. Et ils avaient tous des surnoms comme ça, un peu Paulin. Donc Raloum, c'est, il a pris ça comme ça en une demi-heure. Après, il a réfléchi un petit peu plus pour son pseudo plus définitif.
Mais moi, j'ai découvert dans votre article du magazine Notre Temps, Florence Monteil, qu'il a 15-16 ans. Et il part en Afrique du Nord.
Alors, 17 ans.
C'est quand même c'est courageux.
À 17 ans, il est mineur, bien sûr. Il rejoint une troupe de comiques qui s'appelle les Lori Lori. Et il est embarqué pour une tournée en Afrique du Nord, qui est un peu catastrophique. Et où, pour économiser sur le prix de l'hôtel, pour envoyer à sa maman, il dort dans les halls de gare. Enfin là, il vit des années vraiment de très grandes difficultés, dont il parlera très peu. Il dit la misère n'intéresse personne, le malheur n'intéresse personne. C'est sa pudeur à lui.
Donc quand des journalistes lui posaient la question sur ses années de vache maigre, il ne voulait pas répondre.
Il rentrait vraiment pas dans les détails, alors qu'il a vraiment vécu des années très douloureuses, hein, très difficiles, et avec un entêtement, il n'a jamais renoncé.
Alors après des années de vache maigre et de courage aussi, à 27 ans, Rému, on est en 1910, se fait repérer dans les théâtres de Marseille grâce à un chanteur. Écoutez-le, c'est Félix Mayol.
Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux. La fine menotte coupique tricote quand elle se coiffe aussi en faisant comme ceci. Leurs gestes sont toujours jolis quand elles jouent de l'éventail ou de leurs yeux à vive l'émail. Quand elle pianote, quand elle tapote, barbissimo.
Ah, il faut savoir que Félix Mayol, à l'époque, au début du XXe siècle, c'est le Jean-Jacques Goldman d'aujourd'hui.
Une énorme vedette. Petite houppette, Muguet la boutonnière. Et il va chanter, quelques années plus tard, il va chanter Viens Poupoule ou Lapin Polaise.
Et le repère Rému.
C'est des méga tubes de l'époque.
Et voilà, c'est des énormes tubes. Mmh. Et donc lui, il a ouvert à Paris le concert Mayol, où il fait des revues. Donc toujours, on est toujours dans la chanson, et il repère ce Rému.
Mais qu'est-ce qu'il détecte chez lui? Vous nous dites, il joue les comiques troupiers, il sait pas et chanter. Donc
il voit une présence. Ouais. Je pense que ce qui marque tout le monde, c'est la présence, la voix, la puissance de la voix, la présence. Il se donne à fond, et Mayol a envie. Alors attention, Mayol est toulonnais. Il est basé à Paris, et il y a quand même quelque chose. Il y a un effet de réseau, de camaraderie. Il y a une fraternité vraiment forte. Et donc il lui dit, viens à Paris, je vais te donner ta chance. Et donc il vient, il fait des revues à Paris et il commence à faire des sketchs.
Et donc ça commence à marcher dans le musical pour Rému. Mais il va faire d'autres rencontres, notamment celle de Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry, grand acteur, qui va lui dire « Eh Coco, si tu veux vraiment faire carrière, il va falloir sortir de là, du musical. » Qu'est-ce qui lui permet de faire ?
Ce qui s'est passé aussi, c'est que d'autres petits boulots pour arriver quand même à gagner un peu sa vie, il est souffleur. Et un soir, l'histoire magique, hein, le comédien principal est malade, il le remplace au pied levé, et là, lui, mais d'autres, se rendent compte que c'est un comédien. C'est pas un chansonnier, c'est un comédien. Et à partir de là, quand même, son nom commence à circuler. Il commence à faire des sketchs. En 1912, il va même faire des films muets, avant tout le monde, même avant Chaplin, des petits sketchs muets. Donc là, l'acteur commence vraiment à émerger. Et c'est ça qui va être repéré par un peu Félix Mayol et Lucien Guitry et Réjeanne et voilà.
Et Georges Feydeau.
Voilà, et il va commencer une carrière. Mais juste après-guerre, il y a la guerre.
Évidemment, parce que la guerre se profile, elle va briser, non, mais freiner en tout cas, l'éclosion de ce talent, cette carrière qui se profile. Rému mobilisé, il en sortira meurtri, c'est ce qu'on vous raconte tout de suite.
Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte ce soir l'histoire d'un grand acteur, l'un des plus grands acteurs français, Rému, homme de musical, de théâtre, de cinéma, homme de caractère, de sale caractère, parfois aussi de conviction et de gouaille. C'est un portrait vibrant, passionnant que dresse le magazine Notre Temps en partenariat avec RTL sous la plume qu'on adore de notre invitée Florence Monteil. Alors, Rému a 31 ans quand la guerre éclate en France, la Première Guerre mondiale. Il s'est déjà fait un nom au théâtre. Il est mobilisé.
Alors, il n'est pas encore tout à fait dans le théâtre. C'est ça qui est intéressant.
Dans le milieu toulonnais.
Parce qu'il y a une bascule, en fait. Non, il monte à Paris, effectivement, mais toujours dans la revue. Et donc, il est mobilisé en...
je parlais de musical plus, en effet.
Et donc, il va passer 7 mois au front. Il va être blessé gravement et échapper de peu à la mort. Il va d'ailleurs ramasser sur le champ de bataille un petit morceau de bois qui va devenir son fétiche, qu'il aura toujours sur lui, malheureusement, sauf le jour de sa mort. C'est toujours curieux.
Qu'on racontera tout à l'heure.
Et en fait, pendant qu'il est au front, sa maman décède, sa maman adorée dont il s'est tellement occupé. Et donc, il va revenir 7 mois après, en 1915, meurtri, abattu, une carrière de revue derrière lui, pas encore complètement cette carrière de théâtre qui s'ouvre.
Il est démobilisé.
Ouais. Et en fait, il va remonter sur scène, ce sera toujours sa façon de renaître. Il va remonter sur scène en 1916, encouragé, donc, comme je vous disais, par le papa de Sacha Guitry. Il va aussi tomber très amoureux d'une comédienne qui s'appelle André Spinelli, dite Spi.
Et tous les un joli pansement, l'amour.
Voilà, l'amour, c'est très, très efficace. Et donc, par cet amour, par le fait que Georges Feydeau, puis Sacha Guitry vont lui proposer des rôles de théâtre, à partir de 1916-1917, il devient vraiment un comédien de théâtre. Et là, enfin, le succès arrive. Alors vous voyez, le chemin quand même qu'il a dû faire.
Oui, effectivement, c'est escarpé, on va dire. Sur scène, il joue souvent des personnages bourrus, débraillés.
C'est
l'image qu'on en a gardée, peut-être.
Voilà. C'est l'image qu'on en garde. Parce qu'évidemment, on le voit avec son Marcel.
Dans les Pagnols, quoi.
Dans les Pagnols, la femme du boulanger. Etc. En fait, quand il a 30-35 ans, c'est Brad Pitt, quoi.
Waouh, c'est un dandy.
Oui, et Spinelli, c'est Angelina Jolie. C'est-à-dire qu'ils sont hyper glamour. Ils font
un bon petit rosé de Provence aussi.
Sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils font un bon petit rosé de Provence aussi, à l'époque.
Pas encore.
Ils n'ont pas 6 enfants.
Ils le boivent ensemble aux terrasses des cafés. Et ils sont
c'est
dans les
gazettes.
C'est
un couple à la mode.
C'est un couple extrêmement drôle. À la mode. Rému est très coquet, très élégant. Il va même décrocher le titre de l'acteur le mieux habillé de Paris, ce qui est quand même pas rien. Effectivement, c'est pas l'image qu'on a de Rému. Et il est toujours avec des superbes nœuds papillons, costume 3 pièces, les cheveux gominés. Il est beau, c'est peut-être pas le mot, mais il est charmant, charmeur et très soigné.
Charismatique.
Ouais. Eh bien, ce charisme va plaire à Marcel Pagnol. On a raconté cette histoire tout à l'heure. On est en 1928 quand les deux monstres sacrés se rencontrent. On a raconté d'ailleurs le tour que Rému avait joué à Pagnol pour imposer la scène de la partie de cartes. Eh bien, Rému ne reprend pas son rôle de César dans la pièce Fanny, deuxième volet de la trilogie marseillaise. Et là, on se dit bizarre parce qu'il a quand même marqué des points. C'est un coup d'éclat.
Et puis surtout, il s'est imposé dans ce rôle. Pour ceux qui nous rejoignent, il devait jouer Panis. Il a dit à Pagnol, non, je ne veux pas jouer Panis, je veux jouer César. Et dans le deuxième volet de la trilogie, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, plusieurs fois comme ça, il va y avoir vraiment des brouilles assez sévères. Ils finiront toujours par se réconcilier, mais ça a des conséquences. Donc le Fanny au théâtre, c'est Harry Bore qui incarne César, mais Rému n'est pas fou, Pagnol non plus. Quand ça passe au cinéma, c'est évidemment Rému qui reprend son rôle. Ce qui est plus drôle encore, c'est que pour le troisième volet, César, donc, là, ils étaient à nouveau brouillés et Pagnol donc, décide de ne pas proposer le rôle à Rému. Énorme sacrilège. Et donc, il approche d'autres comédiens, ce qu'il va refaire après avec la femme du boulanger. Et finalement, c'est Rému qui revient le voir, mais il l'embête, il veut un gros cachet, enfin, il fait un peu sa star. Et donc, il le piège, Pagnol, en mettant un scénario, il laisse traîner un faux scénario dans lequel le personnage de César meurt au tout début.
D'accord.
Et donc, Rému le voit, le prompt, je tiens discret, il lisait tout. Et il dit non, 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 rallonge mon rôle, je veux pas mourir au début, je veux le faire, tout ce que tu veux, je le ferai, me paye pas. Enfin, vraiment, parce qu'il était accro, évidemment, à l'univers de Pagnol et à ce personnage. Et donc, ils ont fait.
Il sentait que c'était des rôles qui allaient marquer sa carrière, peut-être, mais aussi l'histoire du cinéma français. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire. Oui. Mais quand il le tourne, il sent le sait. Que c'est vraiment marquant.
D'abord, le succès arrive dès le premier. Ouais. Donc, c'est succès sur succès sur succès. Pendant ce temps-là, il continue. En fait, il tourne au cinéma toutes les pièces de théâtre pratiquement qu'il avait montées. Et il a une dimension de metteur en scène. Il donne des conseils. Il contribue à. Donc, il participe vraiment à la création. Et oui, il le sait.
Alors, après la partie de cartes fameuse dans Marius, la partie de boules non moins fameuse dans Fanny.
Une minute, quoi, je mesure.
Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est mon pauvre panier. Hein? Il est à moi. Alors, je tire.
C'est que tu passes, moi.
Silence!
Vous voyez pas que vous risquez de troubler le tireur?
Oh, quel cocu, mon ami. Oh!
Bravo, capitaine.
Et à 26 mètres encore.
Capitaine, je vous félicite et je vous respecte.
Oui, oui, c'est ça. Respecte le ficheur. Hein. Il a enlevé ma boule parce qu'il a fait 4 pas en tirant.
Moi, j'ai fait 4 pas.
Oui, monsieur, tu as fait 4 pas. Oui, monsieur.
Bah, ça devrait que ça s'arrête jamais, mais il faut quand
et
même.
Et la boule à baisse de ta femme est dégueulasse.
Continue de raconter rôle merveilleux, Rému, qui incarne César dans Fanny. Qu'en disait Orson Welles?
Alors, Orson Welles, il était extrêmement fan de Rému, mais plus encore dans La femme du boulanger, qui a eu un prix aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'imagine pas que le rayonnement qu'a pu avoir Rému de son vivant. Or, la femme du boulanger a vraiment marqué les acteurs américains.
Rému Pagnol comme chien et chat dans un instant. On vous raconte un autre film que Rému ne devait pas faire, La femme du boulanger. Voilà. Justement, quand on pense qu'on a failli jamais entendre ça.
Hervé, la voilà, la voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Cette petite, je l'ai vue que 6 heures. Je suis incapable de dire comment elle était, si elle était blonde ou brune. Elle s'appelait Noix de Coco.
La curiosité est un vilain défaut.
Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie. Quand on est honnête, on dit à qui il est ce porte-monnaie. J'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant.
Jusqu'à 22h.
Je suis juré, monsieur, juré. Je suis ici par la volonté du peuple et je ferai mon devoir jusqu'au bout.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Fort en gueule, râleur, drôle, émouvant, génial, curiosité, se passionne pour le destin de Rému. Il a disparu il y a 70 ans. Florence Monteil, vous retracez sa carrière et sa vie dans le magazine Notre Temps. On le disait, Rému a eu ses plus beaux rôles grâce à Marcel Pagnol, celui du boulanger, évidemment, dans La femme du boulanger. Vous disiez que Orson Welles avait été particulièrement marqué par la prestation de Rému dans ce rôle. Allez, on se réécoute un petit extrait de la femme du boulanger quand la chatte pomponnette débarque.
Ah voilà, tu l'as vu retourner la pomponnette. Dis, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de fesse depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui?
Hein? Regarde là, hein? Elle a eu l'assiette de lait de pauvre pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Il avait faim et froid.
Le boulanger joué par Rému, qui est à côté de sa femme infidèle, quelle scène terrifiante, terrible. Ouais. Et elle a failli ne jamais exister, cette scène.
Encore,
non plus. Mais oui, encore, parce que
brouille.
Cette fois, brouille. Et c'est Pagnol qui ne propose pas, le rôle.
Il va le proposer à Mopi, qui est le meilleur ami quand même de Rému. Donc ça, c'est
oui, il faut faire un peu mal quand même.
Mopi désiste en disant, mais non, ça c'est un rôle pour Rému, ami fidèle. Il le propose à un autre comédien, qui Henri Poupon, qui va même aller se faire refaire une partie des dents pour être conforme au rôle, et Pagnol finalement va le laisser tomber parce que
avec ses dents toutes neuves.
Ouais, parce que Rému revient. Donc ils étaient vachards tous les deux, hein, quand même. Hein.
Il y avait un peu de manipulation, de.
Alors,
j'allais dire perversité, étaient, c'est un peu fort, mais dans leur relation.
C'est une amitié passionnelle, professionnelle, passionnelle. L'un, Rému, est extrêmement obsessionnel, rigoureux, il arrive toujours à l'heure. Voilà. Il est un peu complexé parce qu'il n'a pas fait d'études, mais c'est quand même un autodidacte, il écrit très très bien. Et, voilà. Et en face, c'est un Pagnol qui est son cadet de 12 ans et qui est bohème, désordonné, il tombe amoureux tout le temps, il change tout le temps d'avis et il est extraordinairement cultivé. Donc il y a une sorte de rapport fusionnel et en même temps de compétition entre les deux. Et c'est vraiment l'histoire d'avoir le dernier mot, c'est constant. Constant, c'est celui qui craquera pas le premier, qui, voilà. Mais ça les a pas empêchés de faire des chefs-d'œuvre ensemble.
On parle beaucoup des films de Pagnol, La femme du boulanger, la trilogie marseillaise, La fille du puisatier, mais Rému, il a eu d'autres beaux et grands rôles aussi, avec d'autres réalisateurs.
Ouais. Bien sûr, il a travaillé, il a fait le colonel Chabert avec René Le Hénaff, il a fait avec Henri Decoing Les Inconnus dans la maison, d'après Simenon, donc il a fait des grands rôles, hein, de grands romans. Il a joué avec des acteurs, des actrices. On disait La femme du boulanger, Ginette Leclerc, c'est lui qui l'a amené, Ginette Leclerc, parce que il a le mauvais rôle dans le film, mais dans la réalité c'était extrêmement ami avec Ginette. On leur a même prêté une liaison à tous les deux. Il a lancé pratiquement Michel Morgan.
Alors justement, Gribouille. Michel Morgan, voilà. Gribouille, 1937, extrait.
Où viens-tu?
Je suis allé chercher mon dictionnaire de chimie que j'avais oublié dans la chambre de mademoiselle Michelet.
Oh, c'est pas très agréable pour un jeune homme de se présenter dans la chambre d'une jeune fille à 7 heures de la nuit.
Tu trouves sans doute que ce serait plutôt la place de la magie.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu insinues?
Rien, rien.
Ah, je te demande pardon. Explique-toi.
Non, je ne peux pas me noyer derrière toi.
Et alors? Mais j'ai rien à cacher à ta mère, moi. Oh, tu es mauvais esprit, mon garçon. Si c'est ça ce qu'on t'apprend à l'école de chimie.
On verra raison, Claude. Ta réflexion est tout à fait déplacée.
Merci, maman.
Non, pardon à ton père.
Non, il est trop grand, ça l'humilierait. J'ai jamais lui foutre le père de calotte.
Il ne faut pas lui permettre de penser de toi des choses pareilles.
Si j'ai bien entendu, il n'a pas d'accent.
Et oui, ça c'est très important à dire, parce que bien sûr, on entend la voix de Rému avec cet accent méridional, mais c'était un vrai acteur. Ce n'était pas qu'une nature, bien sûr qu'il y avait une dimension de nature, mais ce n'était pas seulement une nature, c'était vraiment un comédien. D'ailleurs, quand même, en 1943, il rentre à la Comédie Française et il va faire du Molière, il va faire Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire. Il ne le fait pas avec l'accent. Hein.
Ça pourrait être ravissant.
Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette pièce magnifique où il y avait Galabru et Cobert qui jouaient la correspondance entre Rému et Pagnol. Et Pagnol se moque de Rému quand il rentre à la Comédie Française.
Oui.
Qu'est-ce qu'il lui dit?
Il lui dit, ça va, tu as bien commencé ta retraite à la Comédie Française. Le fait est qu'il n'a pas été très heureux à la Comédie Française.
J'espère que dans l'ombre, pardon, je vous interromps, il y a la citation dans votre article. J'espère que dans l'ombre des comédiens du français, tu te trouves au frais et que ta retraite paraît agréable.
Ouais, il le taquine.
C'est taquin, oui. Ouais.
Il le taquine parce qu'effectivement, c'est une institution et finalement, Rému était beaucoup plus libre que ça.
Mais il faut expliquer pourquoi il est entré à la Comédie française, c'est pour échapper aux Allemands.
Absolument, parce qu'il était repéré, évidemment, c'était une grande vedette par la propagande allemande qui voulait le faire tourner. Et pour échapper, il fallait qu'il ait un contrat. Donc c'est son amie Marie Belle, la comédienne Marie Belle, qui l'a aidé à rentrer à la Comédie française.
Pour échapper. J'allais dire Marius, non, ni César ni Marius, mais Rému meurt le 20 septembre 1946. Il meurt sans son petit morceau de bois. Ouais. Il meurt de quoi?
C'est tout à fait incroyable. Il entre à l'hôpital pour une opération bénigne, dont je ne donnerai pas les détails ici, mais vraiment bénigne. Et en fait, apparemment, il a fait une allergie aux produits anesthésiants parce qu'il a fait une crise cardiaque au bout de quelques minutes sur la table d'opération. Et effectivement, il n'avait pas son petit fétiche en bois avec lui.
Et pour découvrir les magnifiques mots que Pagnol prononça à ses obsèques, il faut lire votre très joli article dans Notre Temps, Florence Montaigne. Montaigne, merci beaucoup. À très bientôt.
Bah, vite.
Merci à vous. Florence. À très vite.
Vous écoutez RTL.